Moses, way down in Egypt land. Let my people go.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée, comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres.
Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça.
Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que.
Maintenant j'ai compris, quand je dis non, c'est non. Me laisser tranquille. Si je n'ai pas envie de toi,
et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté, je suis née pour te connaître. Liberté, pour te nommer. Liberté.
Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez libre? Bon, vous avez déjà un peu répondu. Hein. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à ajouter? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez libre ou pas libre? C'est plus facile de dire qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas libre. Qu'est-ce qui fait, hein, on a dit absence de contrôle, absence de contrainte, absence de regard. Ah ouais, libre de soi-même. Waouh, un sacré programme, ça. Pardon ? Savoir qui on est.
Bénéficier d'espace tout en ayant des limites. Quand l'image de l'enfant sera balcon.
Bénéficier d'espace. Voilà, c'est un peu ça, hein. Ouais. Bon. J'espère que dans ce que je vais dire plus loin, je vous aiderai à avancer dans cette réflexion. Il y a Elisabeth Boujon qui aimerait nous dire quelque chose à ce sujet.
À propos de la liberté, le thème étant la liberté de son véhicule de l'été, Denise m'a demandé de dire quelques mots à propos de la liberté comme je l'ai expérimentée dans ma vie. C'est juste une anecdote. Autour de 15 ans, j'ai manifesté l'intention d'aller voir un film au cinéma. Je suis née, j'ai grandi dans une assemblée évangélique plutôt stricte qui, pour s'assurer que les membres ne s'éloignaient pas d'une voie qui leur était en quelque sorte un peu imposée, avait pour habitude de mettre en garde à propos des dangers encourus s'ils s'en éloignaient. Donc, mon intention d'aller voir un film au cinéma a rencontré pas mal d'opposition parce que le cinéma était considéré comme le monde. Ce monde dans lequel nous vivions, mais auquel nous n'appartenions pas, puisque, je cite, « Jésus nous avait choisis et nous, en nous prenant du milieu du monde », selon Jean 15, 19. Donc, mon envie de cinéma a rencontré quelques obstacles, tant du côté de mes parents, qui avaient une peur bleue de s'écarter de la voie, que du côté de notre animateur de groupe de jeunes. Premièrement, pourquoi ce film en particulier ? Dans mon cas, le film traitait d'un sujet pour lequel j'avais un devoir scolaire à fournir pour mon prof. Donc j'estimais que cette envie de cinéma était parfaitement légitime. Mais deuxièmement, la question, est-ce que le film est en accord avec ce que Dieu voudrait que je voie ? J'en étais pas certaine, mais je pensais que le thème du film pouvait alimenter utilement, ma réflexion pour mon travail. Troisièmement, avec exemple à l'appui, on a suggéré que si je renonçais à voir le film pour éviter de déplaire à Dieu, ce dernier m'aiderait dans mon travail et qu'il me récompenserait ma fidélité par une bonne note sans même avoir vu le film. L'animateur de groupe a ajouté « Tu as bien sûr la liberté d'aller au cinéma, mais réfléchis bien à ceci. Si le Seigneur Jésus revenait le soir où tu es au cinéma, est-ce que tu penses vraiment que c'est là qu'il viendrait te chercher, dans un cinéma ?» Alors, tiraillé entre ce que mon cœur souhaitait et ce que les discussions avaient insufflé à ma conscience, j'ai renoncé à la séance de cinéma. L'argument de l'animateur avait porté, j'étais convaincue d'avoir fait le choix qui plairait à Dieu. Mais je vous rassure tout de suite, ma note a été davantage le reflet de mon travail que celui d'une potentielle récompense de Dieu envers une fidélité contrainte par la peur et surtout frustrée. Tiraillé entre liberté et peur, est-ce que c'est vraiment cette liberté que Dieu veut pour nous ? Voilà.
Eh bien, je crois que ça pose bien le problème qui peut être le nôtre dans la réalité de nos vies. Sommes-nous vraiment libres ? Paul a répondu à cette question. Je découvre donc ce principe, moi qui veux faire le bien. C'est dans Romains 7 à partir du verset 21. Je découvre donc ce principe, moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, comme Élisabeth, c'est pour plaire à Dieu que tu as fait ça, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort ? Ici, dans ce texte, il est plus question de liberté, il est vraiment question de liberté intérieure. La loi de Dieu, Paul la connaissait bien, puisqu'il avait combattu aux côtés des pharisiens pour la faire respecter avant de devenir chrétien. Donc, il sait de quoi il parle. La loi de Dieu, Jésus la résume ainsi. Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Ou encore, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est simple. Mais dans notre tête, ce n'est pas si simple, c'est beaucoup plus compliqué. Comme nous l'a dit, je crois que tu nous as bien décrit le dilemme qui peut être en nous. Nous avons entendu, lu et cru beaucoup de choses. Il y a en nous beaucoup de commandements, de fais pas ci, de fais pas ça, de sois comme ci, sois pas comme ça. de conseils pour nous approcher de Dieu et être de bons chrétiens. Nous avons envie d'être proches de Dieu. Nous avons envie d'être capables d'aimer comme Jésus. Alors nous essayons, mais nous sommes souvent placés devant nos incapacités. Un moment ça va, nous sommes contents de nous, puis suivant les circonstances, ou ce qui est dit, ou le ton sur lequel on nous parle, ou la manière dont on nous aborde, ou notre fatigue, ou cela, si cela fait un moment qu'on se maîtrise, en nous, ça se bloque. Malaise, peur, honte, culpabilité, paralysie, énervement, colère, désir de casser la gueule à l'autre. Les mots qui partent tout seuls sans qu'on le veuille, qu'on regrette après. Vous connaissez ça. Il y a en nous un bouillonnement d'émotions, des réactions qui prennent le pas sur notre désir d'être comme Dieu voudrait que l'on soit. Avec Paul, nous devons admettre la vérité. Il y a en nous quelque chose qui nous empêche, qui est d'être comme il nous semble que Dieu voudrait que nous soyons. Paul appelle cela le péché, une force qui nous éloigne de Dieu et qui nous fait du mal. Sommes-nous condamnés à ne pas y arriver? Il y a peut-être une première réponse dans l'histoire de Caïn.
Nous lisons dans Genèse 4. De son union avec Adam, Ève, sa femme, devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors, « J'ai conçu un homme grâce au Seigneur. » Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger de petits bétails et Caïn cultivait le sol. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta des agneaux premiers-nés de son petit bétail, dont il offrit au Seigneur de très beaux morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva une profonde irritation. Il en fut abattu. Le Seigneur lui dit, « À quoi bon te fâcher et d'être abattu? Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est à ta porte comme un monstre à l'affût. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. »
Dans ce texte, il y a le mot « péché ». C'est la première fois qu'il arrive dans la Bible, longtemps après le récit de la chute. Avant, Adam et Ève, les premiers êtres humains, vivaient en harmonie avec Dieu, avec eux-mêmes et l'un avec l'autre. Quand ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quelque chose s'est cassé dans la relation. Ils se sont vus tels qu'ils étaient, ils ont eu peur et ils se sont cachés de Dieu quand il s'est promené dans le jardin. Ils ont désobéi, mais Dieu ne s'est pas détourné d'eux. Il s'est approché d'eux, il leur a parlé, il les a vêtus pour répondre à leur besoin de se cacher. Le problème de Caïn est un des effets de cette cassure. Quelque chose se passe mal entre Abel et lui, et il est pris d'une violente colère. Il ne fait pas appel à Dieu, mais Dieu s'approche de lui. Tu es en train de vouloir faire une grosse bêtise. Réfléchis. Il y a en toi un monstre qui veut te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Nous ne sommes donc pas sans ressources devant le péché, nous pouvons le dominer. Nous ne sommes pas que de pauvres victimes, nous avons une responsabilité, nous pouvons aussi être acteurs. Cette injonction de Dieu à Caïn veut dire aussi que Dieu ne désespère pas de nous. Il a confiance en nous, il a foi en nous, peut-être plus que nous-mêmes. Mais comment maîtriser ce monstre? Alors là, c'est peut-être Jésus qui va nous aider.
Nous lisons dans l'évangile de Marc. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, une localité de Galilée, et Jean le baptisa dans le Jourdain. Au moment où Jésus remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Aussitôt après, l'Esprit le poussa dans le désert. Jésus y resta pendant 40 jours et il fut mis à l'épreuve par le Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient.
Jésus était un homme libre, vraiment libre. Il ne s'est pas laissé désarçonner par les jugements et l'animosité des pharisiens, des responsables religieux. Jamais il n'a succombé à la peur. Jamais il n'a manipulé les gens, fait pression sur eux pour qu'ils croient. Jamais il n'a essayé de se faire bien voir. Il a été lui, vrai, dans tout ce qu'il était, disait et faisait. Comment cela a-t-il été possible? Quand il se fait baptiser par Jean, il assume pleinement son statut d'être humain. J'ai oublié quelque chose. Jésus était fils de l'homme humain et aussi fils de Dieu. Je ne sais pas comment ces deux identités ont coexisté en lui, comment on vit avec ça. C'est un grand mystère, mais je crois que c'est vrai. Il y avait vraiment l'humain et le divin en Jésus. Il était fils de Dieu, fils de l'homme, né dans un corps, né dans la fragilité humaine comme nous. Et quand il se fait baptiser par Jean, il assume pleinement son statut d'être humain. Il se fait baptiser par Jean, qui est un baptême de repentance. Lui, le fils de Dieu. C'est la démarche d'un homme qui veut inscrire sa vie dans une relation juste et vraie avec Dieu. Et c'est au moment où il abandonne toute prétention, où il n'est qu'un homme au milieu des hommes, qu'il voit le ciel se déchirer et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe et qu'il entend une voix qui lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Ce message dans l'évangile de Marc lui est destiné à lui seul. Dans les autres évangiles, il y a des témoins qui entendent aussi. Mais là, c'est un message qui est juste pour Jésus. J'imagine que Jésus devait se poser beaucoup de questions sur lui-même. Et voilà qu'une parole lui est donnée qui répond à ses questions, qu'il établit dans son identité de fils de Dieu et dans sa mission. Il a dû en ressentir une grande joie et une grande paix. Le temps a dû s'arrêter un peu pour lui en ce moment. Pour moi, c'est là qu'est le fondement de sa personne, de toute sa vie et de sa liberté. Je suis le fils bien-aimé de Dieu. En moi, il trouve toute sa joie. Dans les évangiles, on nous raconte souvent plusieurs fois que Jésus se retirait à l'écart pour prier. Et je me dis que dans ces moments-là, il recherchait cette parole, il cherchait à se reconnecter à cette parole pour pouvoir continuer sa route, parce qu'il devait être comme nous, bouleversé par les choses qui arrivaient. Et ce même esprit le pousse dans le désert. Il y reste 40 jours. 40 dans la Bible, c'est un chiffre symbolique. Il désigne un temps d'épreuve, un temps de préparation pour une mission ou de préparation à quelque chose de nouveau qui va arriver. On pense aux 40 ans du peuple d'Israël dans le désert, les 40 ans de jeûne de Moïse pour avoir les tables de la loi, etc. Satan, c'est l'adversaire, celui qui veut nous séparer de Dieu, qui veut nous soumettre à lui, nous asservir. Dans l'évangile de Marc, on ne sait pas comment Satan a mis Jésus à l'épreuve, comment il s'y est pris. Par les autres évangiles, nous savons qu'il a essayé de séparer Jésus de son Père et de sa mission, qu'il a essayé de le mettre à son service en lui faisant des propositions tout alléchantes, plus alléchantes les unes que les autres. Mais Jésus a choisi de rester dans ce qu'il avait reçu. À toutes les propositions de Satan, il a opposé une parole de l'Écriture. La parole reçue à son baptême a été son bouclier contre Satan. Il était en sécurité dans l'amour de son Père. En sortant du désert, Jésus savait que cette parole était fiable et le garderait en paix. Il était avec les bêtes sauvages. Et si ces bêtes sauvages étaient le monstre tapis à la porte de Caïn, et si elles étaient cette loi plus forte que sa volonté qui empêche Paul d'obéir à la loi de Dieu et qu'il appelle péché? Jésus n'a pas vaincu les bêtes sauvages, il ne les a pas fait disparaître, il a vécu en paix à côté d'elles. Est-ce que ça voudrait dire que nous n'avons pas à faire disparaître ce que nous n'aimons pas en nous, mais à vivre en paix avec qui nous sommes, certains que nous sommes les fils et les filles bien-aimés de Dieu, en qui Dieu trouve toute sa joie? Est-ce que vous trouvez toute votre joie en vous? Moi, pas. Des fois, oui, mais pas toujours. Vraiment pas souvent. Eh bien, Dieu, oui, lui, il trouve toute sa joie en nous, en vous. Pourtant, il nous connaît. Il sait très bien qui nous sommes. Et pourtant, il nous aime. Il n'aime pas toujours ce que je fais. Ça, c'est vrai. Il est attristé quand je me mets dans des galères par ma bêtise, hein, ou en colère quand je fais du mal à quelqu'un. Mais nos personnes, moi, il m'aime toujours. Tels que nous sommes, avec le bon et le moins bon, il nous aime. Il trouve en nous toute sa joie. C'est un autre regard que nous sommes invités à porter sur nous, une révolution, et peut-être bien qu'il nous faut toute une vie pour y arriver. Quand nous ne serons pas bien, il faudra y revenir encore et encore. Vous savez, quand on change un objet de place, hein, on met un couteau dans ce tiroir, puis après on le met dans un autre tiroir. On retourne toujours le chercher dans le premier. Eh bien, la parole de Dieu, c'est la même chose. On vit d'abord ce qui nous fait du mal, et après on apprend à aller chercher la parole de Dieu qui nous fait du bien, et petit à petit, elle descend et elle s'enracine en nous. Elle change notre regard sur nous-mêmes et sur Dieu et sur les autres. C'est peut-être bien là qu'est notre liberté. Et peut-être que nous, si nous étions capables de comprendre la qualité et l'immensité de l'amour de Dieu pour nous, nous serions parfaitement libres. Mais la perfection n'est pas de ce monde. Donc nous revenons à Paul. Nous l'avons laissé avec ce cri: qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Et à ce moment-là, dans son discours, il s'arrête, comme si quelque chose lui revenait à l'esprit. « Ah, mais bien sûr, il y a Jésus-Christ !» Donc je reprends la lecture. « Mais remercions Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. car la loi de l'Esprit-Saint qui donne la vie par Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce qui était impossible à la loi de Moïse, parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante pour enlever le péché. Il l'a condamnée au cœur de la faiblesse humaine en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de l'être humain pécheur. Texte difficile et difficile à comprendre et à expliquer. Mais je vais faire simple. C'est simple, finalement. Tout ce que nous recherchions en essayant d'obéir à une loi, de nous conformer à un modèle pour plaire à Dieu, Dieu nous le donne en Jésus-Christ. Grâce à la mort de Jésus, nous avons la vie. Nous sommes libérés de la loi, nous sommes proches de Dieu. En nous, les monstres peuvent être parfois domptés. Et si nous n'y arrivons pas, il y a le pardon. Paul a été vrai. Il a reconnu son incapacité à obéir à la loi de Dieu. Il n'a pas caché ses difficultés. Il a renoncé à être autre que lui-même. Et il a accueilli la liberté et la vie que Dieu lui offrait en Jésus-Christ. Jésus, en se faisant baptiser du baptême de repentance de Jean, a été jusqu'au bout de sa vérité d'être humain faillible. Enraciné dans la certitude qu'il était le Fils bien-aimé de Dieu, il a été libre et vrai dans toute sa vie, jusqu'à sa mort sur la croix. La mort de Jésus sur la croix ne condamne pas ma personne. Elle ne cache pas ce que je suis. Elle ne me déguise pas en quelqu'un de bien. Elle me délivre de ma culpabilité, de mes peurs, des monstres et bêtes sauvages qui s'agitent en moi. C'est la promesse que je peux vivre en paix avec moi-même et que je suis aimée de Dieu. Je ne crois pas. Je ne crois pas que nous soyons appelés à vivre toujours en paix et sereinement. Nous sommes appelés à accepter que cela soit ainsi et à croire que Dieu n'a pas besoin de notre obéissance à la loi pour nous aimer. Il le prouve par tout ce qu'il nous a donné en Jésus-Christ, mort pour nous. J'ai fini.
J'ai encore une chose à dire.
Excusez-moi. Et si on essayait pour voir de commencer à croire ce que ça veut dire que Dieu trouve en nous toute sa joie. De voir pour de vrai ce que ça veut dire. On m'a dit qu'un jour, un homme est né. Il allait par des chemins insoupçonnés. Il avait un port de tête qui menait loin. Il franchissait des horizons, faisait lever des barrières, perçait d'un amour puissant les frontières de son temps. Il déparcellait les vies qu'il rencontrait. Il rendait à chacun son nom et son mouvement. On m'a dit que cet homme avait un corps de chair, un esprit comme le vent, qui voyageait partout où ses pas pouvaient le mener. Cet homme a agacé souvent, comme ces vents entêtants qui font tourner la tête. On m'a dit que certains, pour leur tranquillité, l'avaient fait mettre à mort. Et lorsque ses amis ont voulu voir son corps, ils ne l'ont pas trouvé. Il avait l'assurance de ceux qui aiment et se savent aimer. Rien, ni même la mort, ne peut les arrêter. On m'a dit tout cela, j'ai longtemps écouté et j'ai vu sa silhouette ouvrir sous ses pas le chemin de ma liberté.
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et dit: cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en souvenir de moi. Et nous prions. Seigneur, tu es digne de recevoir la louange de la part de tes filles et de tes fils. Tu as donné ta vie pour nous et nous t'en remercions. Par toi, nous ne sommes plus esclaves de quoi que ce soit. Tu nous permets de vivre libres, hors de la dépendance à laquelle l'ennemi voudrait nous asservir. Alors nous réclamons maintenant sur nous et en nous la présence de ton Esprit Saint. Par lui, nous serons capables de discerner ta présence dans ce repas que tu nous offres. Permets que nous vivions ce partage comme le signe que tu fais de nous, les uns avec les autres, un seul corps, ton Église, le rassemblement de ceux qui veulent vivre libéré de toute contrainte. Amen.
La scène, c'est l'occasion à nouveau de recevoir le cadeau de l'amour de Dieu, de revenir encore et encore à la parole reçue qui nous a dénoués, qui nous a fait du bien. Alors, dans la liberté des filles et des fils bien-aimés de Dieu, en qui il trouve toute sa joie, quittez vos sièges et formez tout autour de la salle, sans oublier ceux qui peut-être ne peuvent pas se tenir debout longtemps, venez former le cercle de la grande famille de Dieu.
Le pain que nous rompons et la communion au corps de notre Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. Par lui, nous formons un seul corps. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendions grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été répandu pour nous pour le salut de tous les humains. Chacun, chacune recevra un morceau de pain qu'il gardera dans la main jusqu'à ce qu'il l'ait trempé dans la coupe de son choix. Il y a du jus de raisin qui a un ruban bleu et du vin. vous invitons à reprendre place. Et pour terminer notre moment de scène, nous confesserons notre foi. Et je vous invite à le faire ensemble. Dieu, Père, je crois en toi. Tu m'accompagnes dans les étapes de ma vie. Je crois que tu m'appelles par mon nom comme un père de tendresse et que tu fais de moi ton enfant. Jésus-Christ, je crois en toi, homme de mon histoire, Seigneur du monde avec le Père. Tu es pour moi promesse et espérance que la vie dépasse la mort. Tu m'envoies dire aux autres à jamais ton amour et la puissance de ta résurrection. Esprit Saint, je crois en toi. Souffle d'amour, respiration de mes prières, secours de mes pas, fil conducteur du Père au Fils, comme tu l'es entre nous tous. Amen. Voici quelques annonces. Il y a les cultes de dimanche prochain. Donc la semaine prochaine, ce sera le dernier culte de nos cultes ensemble à l'église évangélique. C'est Nicolas Genecamp qui nous conduira dans la prédication. Et il y a un culte à la chapelle de Malval. Et puis ce mercredi, il y a des grillades autour du terrain de l'église évangélique à partir de 18h30, 19h, quelque chose comme ça. Et il devrait faire beau et chaud. J'ai la tristesse aussi de vous informer du décès de Madame Mireille Blanc. C'était une paroissienne très, très fidèle. Et nous pensons à son mari Jean-Paul et à ses filles Valérie et Magali, ainsi que leur famille. Un service funèbre aura lieu mardi 12, ici même, à 14h30. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Je vous invite à prier. Seigneur, nous nous approchons de toi avec toutes nos questions, nos doutes, notre incapacité à vivre ta liberté. Et nous te prions pour notre monde où l'espoir de vivre en paix est si souvent déçu et la liberté si souvent bafouée. La guerre et la violence règnent partout et jusque chez nous, et même en nous. Seigneur, interviens, donne-nous de savoir comment être signe de ta présence dans notre monde, tellement en recherche de sens, de paix et de liberté. Seigneur, nous sommes partis de ton Église. Et nous pensons aussi aux chrétiens du monde entier, à nos frères et sœurs, pauvres et souvent persécutés. Donne-leur la joie qui vient de toi et la force de regarder à toi. Renouvelle leur espérance que tu es toujours et à jamais avec eux. Donne à chacun, à chacune, de pouvoir vivre en liberté et au moins dans une liberté intérieure. Et Seigneur, nous te prions pour notre Église, pour notre paroisse, pour chacun de ses membres, pour ses responsables. À chacun, à chacune, donne une vision de ce que toi, tu veux. et nous prions pour les personnes dans la peine, dans le deuil. Et nous pensons encore à la famille Blanc, ou qui sont malades. Toutes et tous, nous te les nommons dans notre cœur. Nous te remettons nos préoccupations et tout ce qui pourrait nous éloigner de toi. Et nous faisons silence pendant que nous déposons tout cela à tes pieds. Et parce que tu es notre Père, nous nous adressons à toi comme ton Fils nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons maintenant recueillir notre offrande. Et pendant, à cette occasion, nous allons chanter. Et après le chant, nous resterons debout pour recevoir la bénédiction. Et nous chantons le chant 45-20, Dieu qui nous appelle à vivre. Pardon ? Ah oui, 35-20, pardon. Je vous invite encore à prier pour remettre cette offrande. Seigneur, nous avons donné un peu de ce que nous possédons, et ce que nous possédons en définitive vient aussi de toi. Alors, Seigneur, que ce que nous avons pu donner soit utile à l'avancement de ton règne. Amen.
Dieu nous dit, je vous aime depuis toujours. Vous n'étiez pas nés et déjà je vous aimais. Je suis vivant et vous vivez. Je suis sauveur et vous êtes sauvés. Pour toujours, vous êtes en moi. Allez et vivez dans la liberté qu'il y a à vivre sous le regard d'amour inconditionnel, en fait, tous les superlatifs que pouvez lui donner au regard d'amour de Dieu. Amen. Bon dimanche.
Merci à chacun et à chacune d'avoir été présent aujourd'hui. Merci Denise pour ce que tu nous as apporté. Merci Anne-Lise pour la musique. Merci à Daniel et à Marie-Claire aussi pour l'accueil. Et le CEPOM est en travaux, c'est un peu difficile de préparer des choses, mais il y a quand même des choses qui vous attendent à la sortie. Alors bon dimanche.